Radio Primitive et Galaxy Pop présentent Jurassic Park, le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
Made in USA.
And now, kiddies, it's time for America's favorite storyteller, Aunt Gloria.
Good morning, children, and welcome, all of my lovely little children out there in TV land. Today's tale is the sentimental story of Little Red Riding Hood. One day, Little Red Riding Hood was walking through the forest on her way to her sick grandmother's cottage, when suddenly...
Please, please, Mr. Wolf, don't hurt me. I'm on my way to Grandma's house with this basket of goodies. Please stay away. What are you going to do to me?
Red Riding Hood, I'm going to eat you.
Jesus Christ, doesn't anybody like to fuck anymore?
Pour certains, l'avatar est symptomatique de l'instinct de survie. Un bon moyen d'enterrer un passé trop douloureux et de renaître tel le phénix, encore plus beau, plus fort et plus flamboyant. Mais là où l'art du camouflage atteint son paroxysme, c'est lorsque cette transformation, ou dans ce cas-ci cette résurrection, permet à l'artiste de se recréer totalement au point qu'il devient impossible de lire entre les lignes de son autofiction et de remonter le fil afin de découvrir qui se cache derrière le dit avatar, soit énigmatique, mais désincarné. Métaphoriquement, c'est comme si Superman dormait, mangeait, se lavait, faisait caca avec son costume, au point d'effacer toute trace de Clark Kent, symbole de son humanité. D'ailleurs, c'est complètement con ce que je viens de dire, Superman ne fait pas caca puisqu'il est pas humain. Qu'elle débarque d'une autre planète sera d'ailleurs l'une des théories entourant le mystère de notre curiosité du jour, Angeline, alias The Billboard Queen. Dur de retricoter l'origine de cette Barbie en chair, en os et en silicone qui multipliera les inepties concernant son passé afin de brouiller les pistes et de fabriquer sa propre légende à partir de rien. Si l'automarketing ne surprend plus personne de nos jours avec l'avènement des réseaux sociaux, Angeline fut en quelque sorte en son temps une proto-instagrammeuse ou une proto-influenceuse. Je veux dire par là qu'elle n'a rien à vendre, ne possède pas de talent particulier, mais a la ferme ambition de devenir célèbre. C'est d'ailleurs là son principal plan de carrière. C'est à partir de ce postulat simple mais très égocentré qu'Angeline va conquérir Los Angeles dans les années 80. Je vous invite donc à faire un petit voyage dans le temps, non pas à bord d'une DeLorean, mais d'une Corvette C7 rose bonbon immatriculée Angeline.
Nom de Zeus !
En février 1984, les passants de Sunset Boulevard découvrent pour la première fois sur un énorme panneau publicitaire qu'on appelle là-bas Billboard, une jeune femme peroxydée, à la plastique en plastique, avantageuse dans une pose lascive. Angeline Rocks, voilà tout ce qu'il y est écrit, si ce n'est le numéro de téléphone de l'afficheur dans un coin. L'histoire aurait pu s'arrêter là, un publicitaire un peu malin, prêt à tout pour se faire remarquer. Moi perso, ça me rappelle plus les petits encarts du Minitel rose.
36-15 Ulla. Le diable corps.
Le phénomène va en réalité devenir viral très rapidement puisqu'on dénombrera pas moins de 200 billboards au total sur une période de 10 ans. Alors oui, dit comme ça, 200 affiches en 10 ans, ça peut paraître peu. Mais je vous rappelle qu'on est dans les années 80, que ces billboards font partie des espaces publicitaires les plus chers, les plus grands, les plus prisés, les plus vus et de fait, les plus rentables. Angeline est sur toutes les lèvres et dans toutes les bouches. Du passant lambda aux journalistes locaux, tout le monde se demande...
Mais qui est cette femme? Et tout lui vient son extraordinaire beauté.
Je crois qu'elle a suivi quelques... imperceptible et subtile transformation de chirurgie esthétique.
En l'espace de quelques semaines seulement, le but est atteint, Angeline est partout. Mais désormais célèbre, la presse va s'intéresser à elle et commencer à lui poser des questions rhétoriques du genre « Qui êtes-vous? Que faites-vous? D'où venez-vous? Qui est Angeline ?» Madonna et Nina Hagen coincées dans le corps de Lolo Ferrari? Angeline est Angeline et c'est tout. Et je n'invente rien, la réponse est dans la question. Angeline incarne le rêve américain et le rêve des Américains. C'est-à-dire, en gros, si vous avez une idée et assez d'ambition, tout est possible. Et à partir de là, elle tentera tout ce qui lui passera par la tête, à commencer par un album en 80. Produit par son ami et guitariste David Pazaro. Driven to Fantasy sera disponible via le fan club d'Angeline. Il est autoproduit sur le label, je vous le donne en mille, Pink Kitten Records, et n'aura pas le succès qu'elle prétendra par la suite. Il s'écoulera d'ailleurs à si peu d'exemplaires qu'il est presque impossible aujourd'hui de mettre la main sur un spécimen d'occasion à prix décent. Malgré tout, on peut être surpris par le style du disque qui est aussi plutôt entre pop rock et new wave à la blondie, là où on aurait pu s'attendre à un truc un peu moins subtil. C'est une femme de goût et je vous invite d'ailleurs à aller jeter une oreille à sa discographie. Elle sortira plusieurs albums EP et maxi entre Drive Into Fantasy et Lucky California State, dernier single en date paru en 2021 sur les plateformes. On peut également l'entendre sur le morceau Super Freak Family de son amie Nina Hagen. Oui, j'y tiens. Elle sera également draguée par le cinéma et apparaîtra dans plusieurs œuvres peu mémorables du 7e art, dont En Vrac, Objectif Terrienne aux côtés de Jim Carrey et Gina Davis, Dangerous Love ou encore The Malibu Beach Vampires, un bon nanar avec des bruits dans ce genre-là. Elle se serra également à la peinture, bon, est-ce vraiment utile de vous décrire le sujet et la couleur principale de ses œuvres d'art, et osera même se présenter comme candidate au poste de gouverneur de la Californie en 2003.
The truth is, I don't really want to be governor. I already rule the universe. Then why am I running? Because I can make a difference in everybody's life.
Vote.
Mais le domaine dans lequel Angeline excelle, c'est incarner Angeline, l'œuvre de toute une vie. Une vie qu'on peut qualifier de performance artistique. Un choix sans doute fait sciemment, mais pour le moment, les journalistes qui lui posent la question se heurtent à un mur. Elle racontera tout et son contraire afin de brouiller les pistes. Tantôt née dans l'Idaho, tantôt orpheline du Midwest, tantôt venue d'une autre planète, tantôt déesse du sexe, elle usera de tous les stratagèmes pour écourter le sujet et détourner l'attention. Elle est Angeline et c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Qu'on la considère comme chanteuse, entrepreneuse, pour sa plastique ou pour un test de Rorschach en rose comme elle aime à se décrire, Angeline ne souhaite pas en dire davantage sur qui elle est en privé et ça fait sens. Tous les gens qui la connaissent respectent et admirent cette aura de mystère, mais surtout, Angeline ne fait pas partie de ces artistes qui, une fois le rideau tombé, quittent le costume pour enfiler un pyjama pilou-pilou.
Non, non.
Mais un détail, des papiers d'identité, vont permettre à la presse d'en découvrir. Il est assez difficile de croire qu'une icône lancée dans une telle entreprise de dissimulation ait attendu l'année 2016 pour changer officiellement d'identité. Et c'est ce qui va permettre à une poignée de personnes de se lancer dans un véritable jeu de piste et de tirer les ficelles qui relieront Angeline à une certaine Ronya Tamar Goldberg.
Caméscope Natashi contre la mémoire qui s'enfuit.
Dans le courant des années 2010, un généalogiste prend la décision de résoudre le mystère Angeline pour le fun. Mais ce qu'il va découvrir va ouvrir la porte à des investigations plus approfondies de la part de plusieurs journalistes plus ou moins bien intentionnés. En août 2017, soit un an après qu'elle soit officiellement devenue Angeline Lynn, tant qu'à faire, pourquoi se compliquer la vie, The Hollywood Reporter publie un article censé répondre à la fameuse question
« Mais qui est Angeline ?»
Ronya Tamar Goldberg est née en Pologne en 1950. Et oui, nous sommes en 2024, Angeline a 74 ans, unbelievable. Ses parents, juifs rescapés des horreurs de l'Holocauste, entraîneront Ronya puis sa sœur cadette Annette dans une série de fuites d'abord de la Pologne à Israël, puis d'Israël aux États-Unis à New York précisément, où la future diva abandonnera bien plus que son enfance, puisqu'elle y laissera Ronya Tamar Goldberg derrière elle en américanisant son nom, devenant ainsi Ronnie Tammy Goldberg en 1959. Un déménagement plus loin, à Los Angeles cette fois-ci, la mère de Ronnie décède d'un cancer. Le père se remarie l'année suivante, union qui donnera naissance à une petite fille. Le tempérament des trois enfants est franchement différent, et on pourrait le relier à beaucoup de causes. Angeline, l'aînée, est la plus casse-cou, yeux, multipliant les provocations et expériences interdites dans le but, certainement, de se faire remarquer par son père, un homme plutôt rustre et silencieux, allons-y, disons-le, carrément border, multipliant les violences psychologiques sur ses enfants, du genre les enfermer des heures dans un placard pour les faire réfléchir. On peut donc comprendre aisément que Ronnie ait tout fait pour s'extirper le plus rapidement possible de ce climat délétère en se mariant à l'âge de 18 ans en portant sa sœur Annette et son petit ami sous le bras. Le mariage sera de courte durée, une année seulement. Après une séparation à l'amiable, chacun prend des voies différentes. Nous sommes en 1969 et nous perdons la trace de Ronnie, Tammy, Goldberg, et ce, pour de bon. Et je suis hyper mitigé sur un truc et pardonnez-moi d'être un poil tatillon. Pour moi, l'article du Hollywood Reporter ne répond pas vraiment à la question
« Mais qui est Angeline ?»
En effet, une bilan de 5 années subsiste, puisque les premières traces d'Angeline remontent à l'année 74 et que durant ce laps de temps, on ignore tout de la construction du personnage. On ignore tout de la transition de Ronnie vers Angeline. On sait juste que la première apparition discrète d'Angeline remonte à un film, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une figuration dans Phantom of Paradise de Brian De Palma, et permettez-moi d'y voir une certaine cohérence. Elle fera d'autres courtes apparitions dans des projets cinématographiques obscure dont ça.
What are you going to do to me?
Red Riding Hood, I'm going to eat you.
Jesus Christ! Doesn't anybody like to fuck anymore?
Avouez que la question est plus que jamais d'actualité. Bref. Et là, vous allez me dire, et la musique dans tout ça, bordel? J'ai découvert ce personnage haut en couleur grâce à la mini-série biopic Angeline disponible sur Canal+, que je vous recommande chaudement. Et ce qui m'a franchement interpellé dans cette série, c'est justement la musique. Car en réalité, avant 1984 et le tout premier Billboard, Angeline a tenté le tout pour le tout dans la musique. Elle fait la rencontre de Jordan Michaels en 1977, son petit ami et guitariste du groupe punk Black and Blue, somme toute pas mal, mais qui peine à se faire remarquer. Angeline a déjà un concept en tête, et c'est qu'en exploitant sa plastique, il y aurait moyen d'inverser le courant. Bon, du côté de Jordan Michaels, il dit que c'est lui qui a tout de suite repéré le potentiel qui sommeillait en elle.
How about generation?
C'est ainsi qu'Angeline devient la chanteuse, que dis-je, l'incarnation, l'identité du groupe désormais rebaptisé Baby Blue. Et même si ça ne leur permettra pas d'accéder au podium tant espéré, il s'agit du premier véritable jeton rentable dans le bandiment chaud d'Angeline. Misant tout sur sa présence et son physique de Barbie pimpée, ils placardent des affiches de concerts qui se font vite remarquer. Ainsi, ils feront la tournée des clubs locaux comme le Starwood et le Whiskey à Gogo où ils assureront la première partie des Screamers. Ils sortiront un unique single l'année 1979, Rock'n'Roll Rebel. Enregistré en Angleterre et tiré à 1000 exemplaires, ce 45 tours ne leur permettra pas d'atteindre la marche du dessus malgré une rotation du titre sur KCRW et les concerts qui s'enchaînent. Angeline s'impatiente et décide de ne plus miser que sur une seule chose, elle-même. Changement de concept, le groupe enregistre un second disque, Too Much To Touch, mais cette fois-ci, il sort sous le pseudo Angeline. Elle apparaît désormais seule sur les affiches et flyers distribués ici et là, et le concept commence à prendre.
Tout doucement.
En 1982, ils sortent un premier album intitulé Angeline, sous le sobre pseudonyme
Angeline.
Et pour promouvoir ce 33 tours, elle se met en quête d'un afficheur de renom, et c'est à ce moment-là que sa route croise celle d'Hugo Mesnick. On y arrive.
Tout doucement.
Mais sûrement. Hugo Mesnick est un riche entrepreneur un peu farfelu, reconnu dans le monde de l'impression d'affiches gigantesques, puisqu'il utilise à l'époque un procédé dont il est le seul à connaître le secret. Secret qui n'échappera pas à Angeline, qui va matrixer cet imprimeur afin d'obtenir ses faveurs. Il lancera, pour les beaux yeux d'Angeline ou pour autre chose, sait-on jamais, une campagne d'impression d'affiches pour promouvoir ce premier LP, dont on écoutera un extrait assez éloquent dans un instant. Malgré le boulot réalisé dans cette promo onéreuse qui n'a rien coûté à Angeline et rien rapporté à Mesnick, elle reviendra à la charge, donc en 84, avec pour seul concept Angeline et rien de plus. Et c'est ainsi que Barbie prit enfin sa revanche sur les hommes qui préfèrent les blondes. We'll be right back. Vous venez d'écouter l'épisode 4 de la saison 3 de Jurassic Park. Cet épisode est disponible en replay sur le site off de Radio Primitive et sur toutes les applis courantes de podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, histoire de mettre...
des paillettes dans ma vie.
Prenez soin de vous, et à la prochaine.